Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
France Info.
Riché est là pour le Nouvel Observateur, grand reporter, Franck Boisy, journaliste économique à Libération, et Jean-Hervé Lorenzi, membre et fondateur du Cercle des économistes. Gabriel Attal s'exprime donc en ce moment. Il vient de préciser la phrase « La France n'est pas un paradis fiscal, n'est un paradis fiscal pour personne », dit-il. Mais en tout cas, vous l'avez bien entendu, il dit à la fois pas d'augmentation d'impôts et... pas de dogme, peut-être, quand même, concernant les super-profits. Comme une petite contradiction où je me trompe, Franck Boisise.
Il y en a au moins deux, Bérangère. D'abord, je reviens sur quand Gabriel Attal dit « La France n'est pas un paradis fiscal ». Je rappelle qu'il y a moins de 15 jours, il s'est réjoui de la significative progression de la lutte contre la fraude fiscale et des sommes récupérées qui est en augmentation. Donc dire que la France n'est pas un paradis fiscal...
Ce qui est une façon, justement, j'imagine, de valoriser aussi le travail qui a été fait de lutte contre la fraude.
Oui, mais en fait, ça veut dire quand même...
Mais que pour l'instant...
Certains s'affranchissent de l'impôt. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, sur le dogme de ne pas vouloir augmenter les impôts. Mmh. Alors ça, c'est l'affichage politique. C'est le panneau qu'on annonce. Après...
Qui est un peu ébranlé quand même,
ces derniers jours. Parce qu'il y a des réalités. Il se trouve qu'on est au début de l'année 2024, donc on a les résultats pour l'année 2023 de toutes les grandes entreprises. Et que voit-on ? On voit que les plus grandes entreprises, c'est-à-dire celles, les 40 plus grandes entreprises cotées, ce qu'on appelle communément le CAC 40, ont dégagé pour l'année 2023 des profits assez records. C'est de l'ordre de 67 milliards d'euros, auxquels il faut rajouter 30 milliards d'euros d'un exercice absolument hallucinant qu'on va résumer en trois mots. Les entreprises ont pris une habitude qui est quand même assez extraordinaire. Elles se rachètent leurs propres actions. Et pourquoi se rachètent-elles leurs propres actions ? Parce qu'une fois qu'elles les ont rachetées, elles les suppriment d'un trait de plume et ça fait mécaniquement monter le cours de l'action puisqu'il y a moins d'actions et donc ça profite aux actionnaires qui voient le cours de l'action monter. Alors cette sorte d'anthropophagie financière est un truc qui a même finalement agité le président de la République, puisque Emmanuel Macron a dit dans un premier temps qu'il taxerait ses rachats d'actions, et puis finalement, il s'est ravisé. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, on a là une manne de 100 milliards d'euros, uniquement sur le CAC 40, sur laquelle, pour le moment, le taux d'impôt qui est pratiqué est somme toute relativement modeste, et sur lequel, en tout cas, il y a de la marge pour récupérer des recettes fiscales pour le budget de la nation.
Je reviens d'un mot, mais on développera quand il aura donné des détails. Gabriel Attal confirme qu'il y aura bien une réforme de l'assurance chômage cette année. On va attendre encore une fois les détails. Il dit également, concernant les super-profits et ce qu'on a commencé à aborder là, qu'améliorer la taxe sur les super-profits des énergéticiens est une piste que nous pouvons suivre. Moi, je voudrais... comprendre, et je pense que les gens qui nous écoutent voudraient comprendre, comment cette taxe sur les profits des énergéticiens qui ont profité notamment de la crise ukrainienne, c'est un peu raccourci, pardon, mais bon, devait ramener 12 milliards et à l'arrivée n'en ramène que 300 millions. Alors, qui veut s'y coller ? Jean-Hervé Lorenzi, peut-être ?
Non, si je vous donnais l'explication, je
c'est
pense que...
C'est une vraie
que,
question, quand même. Hein.
Oui, et je vous réponds à votre question, je pense que je mérite directement le prix Nobel d'économie. Personne n'a
allons-y,
compris,
si on peut vous y aider.
Personne n'a compris de quoi il s'agissait. Moi, je suis incapable de vous répondre à cette question. Revenons un instant sur le... Si vous m'autorisez, Bérangère...
Je peux préciser ma question. Est-ce que ce sont des façons de procéder ? Est-ce que les entreprises ont des moyens d'éviter ça ? Est-ce que c'est une erreur de calcul ?
C'est vraiment une erreur. Enfin, moi, vous savez, critiquer le ministère de l'économie et des finances, c'est un déchirement personnel que je...
Pascal Richer a une idée,
oui,
puis je reviens à vous.
Peut-être que Pascal a la solution.
Alors, j'ai pas du tout travaillé sur cette question, mais c'est vrai qu'il y a un mystère qu'il faudrait résoudre, parce que surtout de la part de ce ministre Bruno Le Maire, qui se prétend sérieux, compétent, etc. Il y a quand même, on a eu des bugs qui font qu'on est passé de 4,9 à 5,5. Quasiment du jour au lendemain, dans le chiffre du déficit public.
Ça, vous nous avez dit que c'était pas grave. Je simplifie.
Non,
okay, je simplifie un peu, mais quand même.
J'ai dit qu'il fallait pas paniquer. J'ai dit qu'il fallait pas paniquer. Non, mais simplement ne pas savoir où, parce que c'est quand même 20 milliards ou 18 milliards de différence entre les deux chiffres. Ne pas savoir où sont passés ces 18 milliards, c'est quand même assez...
Alors là, il y a 12 milliards. Cette taxe sur les super-profits des énergéticiens, Franck Boisy a une idée, visiblement.
Alors, j'ai pas d'idée ni de secret, mais il se trouve qu'à Libération, on s'est posé la question toute la journée. Oui. Et il y a quand même un truc.
Je pense
qui...
que le Nobel d'économie est pour Franck Vazy.
Non, il n'y a pas de solution. Personne n'aura le prix.
On a des pistes, simplement, Bérangère, mais simplement, souvenons-nous, quand cette taxe sur les super-profits est annoncée, effectivement, pour marquer l'opinion, on dit d'entrée, avant qu'elle ne soit perçue, elle va rapporter beaucoup d'argent. Ce qui est assez étonnant, puisque c'est une taxe nouvelle qui n'existait pas jusqu'à présent, et on dit d'entrée, voilà ce que ça va ramener. Et à ce moment-là, ceux qui ont suivi ça s'en souviennent peut-être, on a une levée de bouclier de tous les énergéticiens qui font leur boulot de lobbyiste en disant c'est un scandale, on paye déjà beaucoup d'impôts. Bon. Et alors, la deuxième question qui est quand même encore plus étrange, c'est que dans ceux qui doivent payer les super profits sur leurs recettes énergétiques, il y a quand même une entreprise qui s'appelle EDF, dont l'actionnaire unique et à 100% n'est autre que l'État. Et c'est là où le sujet devient carrément kafkaïen, c'est-à-dire comment le ministère de l'économie, qui quelque part est le patron d'EDF, a pu se tromper à ce point-là sur une entreprise qui est dans son giron et sur laquelle il espérait une recette fiscale très importante. Et là, on navigue quasiment dans le surréalisme.
Jean-Raphaël Lorenzi.
Oui, je trouve que on va mettre ça, tout ça, sous le vocable général d'une, non pas de panique, mais de difficulté comptable. Ce que disait Pascal est juste. Moi qui suis le plus ancien de vous tous, je n'ai jamais vu une erreur de 0,6 sur un déficit public. Jamais vu ça. Donc, il y a quand même un petit problème. Maintenant, revenons sur la taxe sur les super-profits. Parce que ça, c'est très important. Moi, je trouve ça formidable de dire il n'y a pas d'augmentation des impôts, mais on va taxer les super-profits. Alors, moi, c'est assez simple.
Petite contradiction, là.
Je suis pour les profits. C'est bien qu'il y ait les profits. Maintenant, les dividendes et les rachats d'actions, ça sert à rien. Ce dont notre pays a besoin, je suis un peu répétitif,
ça sert à rien, c'est productif, vous voulez dire.
Ça ne sert à rien, il faut investir dans le pays. Et donc, je suis assez favorable pour que j'ai, comme tout économiste, sorti beaucoup de papiers qui ont un intérêt limité, mais j'ai sorti un chiffre sur un tiers de profit, deux tiers de rémunération du salaire. Un tiers. J'arrive à un tiers de rémunération sur les 100 milliards. À ce moment-là, c'est vrai que je mets une taxe sur ce qui dépasse selon ce niveau-là, parce que nous avons besoin que ces dividendes soient utilisés pour investir. On va pas faire, on nous bassine, si vous me permettez l'expression, sur l'intelligence artificielle, le matin, le soir et le petit déjeuner. Je vais pas répéter bassiner, mais on se concentre sur le réchauffement climatique à juste titre. On nous explique que le vieillissement, qui est le problème le plus important des trois. Moi, mes calculs, c'est 90 milliards de plus par an, de plus liés au vieillissement de la population française à partir de 2030. Chez Géant, tout ça suppose de l'investissement, de la capacité de financer.
Sans parler de la défense.
Et sans parler de la défense. Donc tout ça revient à dire qu'il faut mettre à plat tout ça. On arrête de se dire, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de ceci. Tout ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on finance les besoins d'investissement dans notre pays.
Et ça, c'est en taxant les super-profits. Ou en tout cas, en ponctionnant dedans. On est d'accord, Pascal Richer?
Je pense que quand il fait le distinguo entre « je n'augmente pas les impôts, mais je n'ai pas de dogme sur les super-profits », c'est que ils doivent imaginer une taxe un prélèvement ponctuel, c'est-à-dire pas un impôt qui serait pérennisé, mais un prélèvement ponctuel sur les entreprises qui ont fait ces profits sans rien faire, en se tournant les pouces simplement parce qu'il y avait une guerre en Ukraine, quoi, ce qui est quand même d'un point de vue moral.
Il y a d'autres exemples à part les énergéticiens.
Oui, on a un exemple, on a un autre exemple, c'est la taxe qui a été mise en place sur les aéroports et les autoroutes qui ont fait eux aussi.
On sait ce que ça a rapporté.
Bah, c'est la première année où elle rentre en vigueur, donc on est, je crois, sur 5 à 600 millions. Mais effectivement, on a considéré que ce qu'on a appelé un peu l'économie de la rente, c'est-à-dire que les autoroutes, s'il y a plus d'automobilistes sur les autoroutes, effectivement, les recettes des péages augmentent. Et donc, quand l'État a vu les recettes des aéroports et des autoroutes, il s'est dit, là, il y a un petit peu de, il y a un petit peu de gras à taxer. Donc, ça a été la première mouture, finalement, de cette taxe sur les super profits.
20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
Jean-Hervé Lorenzi, l'économiste, Franck Boisiz, le journaliste économique de Libé, Pascal Richer, grand reporter au Nouvel Obs, sont là pour décrypter les annonces de Gabriel Attal. On finit sur le super profit, puis on reviendra à l'indemnisation chômage avec toutes les annonces qui sont en cours. Je vous demandais juste avant la pause, Franck Boisiz, quels autres secteurs sont touchés sont potentiellement ponctionnables, on va dire, à part les énergéticiens. Et vous me disiez, on a travaillé sur d'autres cas.
Oui, parce qu'il suffit de voir les résultats, par exemple, exemple, dans des secteurs traditionnellement très porteurs que sont les luxes. Le transport maritime, ces derniers temps, a été quand même particulièrement rentable.
Mais avait souffert avant. On parle de CMA, CGM, etc.
L'essence même de la taxe sur les super-profits est de dire on ne taxe que quand il y a super-profit. Au-delà...
Sans tenir compte des difficultés qui précèdent.
Non, en tenant compte uniquement de l'année donnée et à partir d'un certain niveau de profit. C'est-à-dire qu'on applique l'impôt, comme le disait Jean-Hervé Lorenz tout à l'heure, classique sur le bénéfice. Et quand on dépasse un certain niveau de profit...
Ce serait quoi le niveau? Parce qu'on parle jamais, on ne donne jamais de chiffres là-dessus. Je sais bien que ce n'est pas décidé, mais ce serait quoi le niveau
raisonnable? Vous pouvez, par exemple, prendre la moyenne des bénéfices des trois dernières années et puis voir s'il y a une différence entre cette année et cette moyenne.
Avec
et...
un seuil?
Oui, ça a été fait déjà. Pendant même après la guerre de 14-18, il y a plusieurs pays qui ont mis en place des systèmes qui ont marché. On a réussi à reprendre les profits de guerre des industries d'armement et autres.
La France a fait ça?
Oui, il y a eu des débats. Je sais pas. Ça a été fait beaucoup moins, dans une moindre mesure qu'en Angleterre, par exemple, mais ça a été fait.
Objectivement, c'est pas très compliqué à déterminer. On va considérer que on va faire des calculs. Vous vous souvenez qu'il y a une quinzaine d'années, s'il n'y avait pas 15% de résultats sur le capital, sur l'investissement, on était nul. Donc, on a toujours su arriver à mettre des chiffres sur les choses. Il s'agit juste de se dire qu'on est parti dans une difficulté économique majeure, des besoins gigantesques, tout le monde se remonte un peu les manches, et là-dessus, ce qu'on appelle les super profits, alors il faut pas que ça entraîne, trop d'excitation du côté de la France insoumise, mais on va trouver des chiffres raisonnables qui font qu'à un moment, on passe du taux normal 25%. À 30% ou 25% pour les bénéfices à quelque chose qui est peut-être de 10% dessus. Tout ça est pas très compliqué.
Sachant qu'on peut rajouter une précision, avec laquelle je pense Jean-Hervé sera d'accord, c'est que toutes ces grandes entreprises qui dégagent des profits assez importants, en fait, ne payent pas tous leurs impôts en France. Il y a ce qu'on appelle un taux effectif d'impôt, c'est-à-dire que le pourcentage d'impôt qu'elles payent sur leurs bénéfices, il n'est pas de 25% comme la plupart des entreprises qui font toutes leurs chiffres d'affaires en France, mais c'est un taux beaucoup plus faible parce qu'ils pratiquent ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale. Donc, quand on calcule le taux effectif d'impôt de Total, de LVMH, de CMA-CGM, on est sur des taux qui sont plus proches de 10 à 15% d'impôts et non pas de 25% d'impôts sur les bénéfices. Ce qui fait qu'il nous reste quand même une marge sur cette notion de super profit.
C'est pour ça que c'est tout à l'heure exactement comme on disait. Il ne s'agit pas du tout de dire qu'il ne faut pas regarder les dépenses publiques et d'essayer de réduire là où on dépense de l'argent de manière totalement inutile et inefficace. De la même manière, il ne s'agit pas du tout de condamner le profit. Le profit, c'est une bonne chose quand ça sert à l'investissement. Je vous me permets de vous rappeler, vous relisez Max Weber, ce qu'est le capitalisme vertueux. C'est un capitalisme qui, en permanence, veut développer, faire de la croissance, de l'innovation, de l'emploi, c'est ça la logique de l'investissement, et on en a vraiment besoin dans notre pays. Voilà.
Alors, si on revient aux annonces concernant les taxes sur les super profits, il n'a pas de dogme, c'est ce qu'il dit, mais néanmoins, il répète qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Ça veut dire qu'au lieu de faire rentrer de l'argent, on va couper les dépenses. C'est ça qu'il faut entendre, Pascal Richer.
C'est exactement ce qu'il faut entendre, et ça s'appelle un dogme. Précisément, c'est un dogme, c'est-à-dire. Quand je dis « je n'augmenterai pas les impôts », quoi qu'il arrive, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, je n'augmenterai pas les impôts, c'est un dogme.
Peut-être aurait-il été finalement plus perceptible par l'opinion publique qu'ils disent « je n'augmenterai pas les impôts sur les personnes physiques », par exemple, et de dire « l'impôt sur le revenu ne bougera pas ». Et ça aurait peut-être rassuré le plus grand nombre. Mais dire « je n'augmenterai pas les impôts de manière générique » veut dire effectivement « je ne touche pas au super-profit ». Il aurait pu aussi peut-être dire « je reviendrai sur certains aménagements fiscaux que j'ai faits ». C'était notamment ce qu'on appelle la ristourne sur les impôts de production. Les entreprises ont obtenu, en plus de la baisse du taux d'impôt sur les bénéfices, une ristourne sur ce qu'on appelle les impôts de production. Ça coûte 4 milliards d'euros par an. En ces temps de difficultés budgétaires, on aurait pu comprendre qu'on revienne sur un avantage fraîchement consenti. Ça n'a pas été le cas.
Alors je vais vous dire quelque chose qui va déchaîner la mauvaise humeur de vos auditeurs. Mais on voit bien que quand même le gros paquet, c'est la protection sociale. Mmh. Alors lui, il attaque sur l'assurance chômage. Je suis tout à fait d'accord avec Pascal, c'est pro-cyclique. C'est l'inverse de ce qu'on veut faire. En revanche, ça ne me choquerait pas. Moi qui suis retraité, qu'on regarde avec un certain sérieux, non pas les petites retraites auxquelles je pense évidemment qu'il faut les protéger et peut-être les augmenter, mais qu'il y a pas mal de retraités. Moi, ça ne me choquerait pas, par exemple, que la CSG des retraités soit alignée. Alors, je me suis fait ainsi absolument insulter en disant ça, mais je suis directement concerné, donc j'ai le droit de le dire, que la CSG soit alignée. Droits. Je ne vois pas pourquoi la CSG ne le serait pas. Mais ce qui m'ennuie, c'est que ça touche aussi les petites retraites. Donc, attention. De la même manière, ça ne me choquerait pas qu'on regarde un peu. Aujourd'hui, les revenus des retraités sont légèrement supérieurs à ceux des actifs, en moyenne, ça veut dire que le truc, ça me choquerait pas qu'on regarde un peu si on peut faire quelque chose là-dessus, plutôt que de toucher les chômeurs. Vous voyez, chômeurs et retraités, c'est ça le choix.
Alors, de petites retraites, je passe à petits salaires. Gabriel Attal annonce qu'il veut des allègements de cotisations qui incitent davantage à augmenter les bas salaires.
C'est bien.
Genre, vous parliez tout à l'heure des salaires, de la smicardisation, etc. Ça va.
Et là, il faut qu'il développe le sujet, parce que je vous rappelle que les cotisations sociales sur le SMIC sont égales à zéro. Donc, c'est difficile de faire négatif, sauf à redonner de l'argent. Non, donc, c'est un sujet compliqué. Vous savez qu'il y a des tas de travaux qui sont lancés, notamment deux économistes tout talentueux qui vont, on ne sait jamais, les économistes, ça peut être talentueux, vont réfléchir à ce qu'on appelle la désmicarisation.
Les ordres de grandeur, c'est quoi quand on dit alléger les cotisations sur les bas salaire, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit perceptible pour les personnes concernées, Franck Boisy,
comme disait Jean-Hervé, de toute façon, déjà sur le SMIC, il y a une exonération. Donc ça veut dire monter sur une exonération.
On est juste au-dessus du SMIC.
De charge, parce que le SMIC fonctionne comme une trappe finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est au SMIC, ce qu'on évoquait au début de l'émission, a des perspectives de franchir cette trappe du SMIC assez réduite. Mais là-dessus, il n'y a plus de cotisation sociale. Donc finalement, il n'y a pas de marge. Enfin, il y a un allègement très sévère de cotisation sociale, ou très sérieux. Donc l'idée, c'est de monter sur un allègement de cotisation sociale sur des salaires qui sont supérieurs au SMIC, jusqu'à une fois et demie, deux fois ou trois fois le SMIC. Mais le problème qui se pose à ce moment-là, et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est que dès qu'on allège les cotisations sociales de ce côté-là, alors certes, on aura une augmentation du salaire net, ce qui sera bénéficiaire pour le salarié, mais on ampute les cotisations sociales. Donc, on ampute le modèle social français. Et après, on va revenir les chantres de l'économie qui disent « Ah, mais il faut réduire les prestations sociales. » Donc, ce qu'on donne d'une main, on est quand même tenté de le reprendre de l'autre.